souvenez du président normal, vous savez, de cette rhétorique de la normalité, communication politique qui avait été pas mal contestée à l'époque. Comment voulez-vous être normal quand vous êtes président? Et qu'est-ce que ça veut dire être normal? Par rapport à qui? Par rapport à quoi? En fait, quand on prononce le mot normal, eh ben, on fait exister une norme, un système de valeurs qui nous appartient et que tout le monde ne partage pas. Alors, il faut l'expliciter, cette norme. Nous dire ce qu'on entend par normal, sinon on comprend rien. Je me souviens d'avoir lu, il y a quelques années, un livre de Stéphanie Pahut qui posait cette question à une multitude de témoins. Vous trouvez-vous normal? Et j'avais été étonné par la variété des réponses. Être normal, ça voulait dire pour certains être ordinaire, ou être comme tout le monde, mais aussi être anonyme, ou être comme il faut. Ça pouvait être une qualité ou un défaut. Mais ce qui était très beau, c'était de se rendre compte que plus ils réfléchissaient à la notion de normal, plus ils la remettaient en question, plus ils avouaient que tous les jours, en fait, ils passaient leur temps à composer avec les normes, à les trahir, à les défier, y compris les leurs. Si bien que la question « vous trouvez-vous normal ?» ne voulait plus rien dire. Et vous, au fond, je me suis demandé, est-ce que vous êtes aussi normal que vous le prétendez?
Boomerang. Boomerang. Augustin Trapenard.
Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. Qu'y a-t-il d'encore normal? Chez mon invité d'aujourd'hui, il a 29 ans, il est rappeur, il vient de Bruxelles, l'effort du succès de ses deux précédents albums, Morale 2 et Chocolat, il prépare minutieusement son retour. Aujourd'hui sort Quand je marche, premier single de l'album Tout peut arriver, annoncé pour le 27 mai. Il a choisi Boomerang pour en parler. Bonjour Roméo Elvis.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Il y a 3 ans, vous chantiez ça, hein, votre désir d'être normal, normal, normal. Entre nous, jusqu'à quel point est-ce que vous vous sentez encore normal, vous?
Je me sens beaucoup plus normal aujourd'hui qu'à l'époque où je le chantais, en tout cas.
Pourquoi?
Ça, c'est clair. Parce que je suis, j'estime que je suis redevenu un peu normal et je me suis retrouvé grâce à la grosse pause qu'on a tous eue pendant à peu près 1 an et demi. Et j'ai retrouvé une normalité que je recherchais justement.
Oui, vous écriviez ne pas vouloir voir la célébrité comme un problème à l'époque, mais au fond, entre nous, passer de l'anonymat à la surexposition, comment est-ce que vous l'avez vécu, ça?
Je l'ai vécu comme ça se vit quand ça va aussi vite, c'est-à-dire anormalement. Et j'ai appris, j'ai dompté les différents problèmes qu'il y avait, mais surtout je me suis mis en retrait grâce au Covid, entre autres, et je me suis déconnecté complètement du métier et j'ai pensé à d'autres choses complètement parce qu'on était juste beaucoup trop focus là-dessus pendant 3 ans.
Ces états d'âme, ces interrogations, ces remises en question aussi, Roméo Elvis, c'est quelque chose qui vient nourrir vos chansons. En quoi écrire pour vous, c'est toujours un exercice d'introspection?
En quoi c'est un exercice d'introspection? Je saurais pas le dire, bien que, vu que j'écris énormément de textes qui sont très personnels, qui racontent ma vie, je pense que ça se fait dans l'exercice. J'y vois plus un exercice, vraiment une pratique du cerveau, du vocabulaire, des mots, et j'ai vraiment la forte impression que d'une certaine manière, le rap m'a un peu sauvé et a maintenu ce cerveau actif pendant toutes ces années.
Sauvé de quoi?
Sauvé de la paresse, peut-être d'une certaine idiotie, ou peut-être de l'ignorance, voilà. Ça m'a activé, ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait travailler.
Alors vous avez révélé là 3 covers alternatives de votre nouvel album hier, et il y a un autoportrait, quelque chose que vous avez dessiné, c'est vous, ça m'a pas échappé. Qu'est-ce qui vous raconte ce dessin? Qu'est-ce que vous avez voulu montrer?
J'avais envie de montrer que on peut se faire plaisir déjà en proposant plein de choses différentes quand aujourd'hui on est en 2022 et que la normalité c'est plus de proposer une seule couverture, mais 4, 5, des couleurs différentes. Je me suis dit, exprimons-nous.
Parlons de nous aussi.
Ouais, parlons de nous, c'est ça. C'est peut-être l'occasion de faire, en fait, un autoportrait photo ou un truc, ça m'aurait peut-être moins mis à l'aise, mais là je trouvais ça un peu, plus touchant, quoi. Et ça racontait une partie de ma vie aussi, l'art visuel, la peinture, l'école artistique, la photo, c'est aussi toutes des choses qui me représentent aussi.
Dans ce nouvel album, vous allez parler de vous, vous allez dire beaucoup de choses, vous allez tout dire.
Tout dire, je sais pas, parce qu'il faut que je sorte d'autres albums encore après.
Là où vous en êtes, quoi.
Ouais, ça, ouais, clairement, ouais.
Je suis mal à l'aise avec les gens dans la street. Rien qu'ils veulent qu'on fasse un snap. Rien qu'ils veulent qu'on devienne pote. Eux, mais moi, je les connais pas. Le passé commence à manquer comme j'entendais. Vous êtes qui? Avant Moral 1 et avant Double Luce. Je suis dans le mal et sans cette saloperie. Oh ouais. L'oreille siffle encore. Oh ouais. Je suis dans le mal et sans cette saloperie. Oh ouais. Mais j'en fume encore. Je veux être normal.
Normal. Ce morceau, je le disais, Roméo Elvis, c'était il y a 3 ans, c'était sur votre 2e album Chocolat. Vous étiez venu dans Boomerang,
ouais,
juste avant. Entre-temps, il s'est passé quoi ?
Il s'est passé beaucoup de choses entre-temps. Il s'est passé une très très grosse tournée déjà pour commencer, une centaine de dates, un gros succès pour l'album. Et entre-temps, il s'est passé que personnellement, j'ai de mieux en mieux appris à me connaître, à apprivoiser cette célébrité et à l'accepter, à en voir les côtés positifs et négatifs. Et aujourd'hui, je suis content de me sentir beaucoup plus normal qu'à l'époque où j'écrivais ça, comme je dis, et d'être de nouveau beaucoup plus à l'aise face aux gens dans la rue, quand on me demande, comme je disais, un snap, quand on vient vers moi, je viens beaucoup plus spontanément vers les gens. J'ai retrouvé toute la logique de tout ce travail, quoi. Là où avant, j'étais un peu apeuré par la célébrité, oppressé de partout.
Et puis, il y a 2 ans, il faut le dire, parce que ça a eu un impact sur votre vie professionnelle, vous avez été accusé d'agression sexuelle sur une jeune femme et vous avez reconnu les faits qui vous étaient reprochés.
Ouais.
On en a beaucoup parlé. Cette période, comment vous l'avez vécue ?
Comme je le disais, déjà, l'année passée, c'est un geste déplacé. Je me suis mal comporté, donc je me suis excusé, en fait. Et aujourd'hui, on est clair avec ça et je suis content de pouvoir le dire, quoi.
Vous en sentez encore les répercussions ?
Ouais, je pense. C'est normal.
Je vous ai entendu dire que les artistes étaient peut-être trop aimés, Roméo Elvis.
Ah ouais, ça c'est pas faux, ouais.
À quoi vous le voyez, ça ?
Personnellement, je l'ai vécu aussi. J'ai été mis sur un piédestal et ça m'a peut-être fait gonfler la tête un petit peu et fait perdre pédale parce qu'en fait, on a beaucoup, beaucoup d'amour tous les jours. Et en vrai, c'est ça aussi, c'est anormal. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on sait pas gérer, même si on a l'impression. On parle souvent des haters, on parle de la haine, de tout ça sur les réseaux. En vrai, l'amour qu'on nous donne est disproportionné et quasi aussi toxique d'une certaine manière.
Peut-être que cet excès d'amour, justement, ouais, il rend possible l'excès inverse.
Exactement.
L'excès de haine.
Exactement.
Comment on fait alors pour rester dans la mesure ?
On écoute les autres. Parce qu'en fait, au stade où on est, si je parle pour moi, on va nous laisser parler tout le temps, si on nous laisse l'occasion. Et on va nous écouter parce qu'on a la voix la plus portante et qu'on est le rôle principal. Donc c'est le plus dur, c'est d'écouter les autres qui sont autour de toi. Parce qu'en fait, ils veulent ton bien, même s'ils vont te contrarier, même s'ils vont pas dire la même chose que toi. Et tu trouveras toujours la réponse et la vérité chez l'autre. Mais il faut que ça soit quelqu'un qui t'inspire, en qui tu fasses confiance. Et moi, ça a été beaucoup ma femme ces dernières années. J'ai toujours été fou amoureux d'elle, mais là, depuis 2-3 ans, ça s'est complété d'une fascination pour elle et pour son intellect et pour sa sagesse. Et voilà, je retrouve mon refuge dans ma famille et chez ma femme.
Maintenant que je suis au sommet, je peux que tomber.
Ouais.
C'est une phrase tirée de votre titre « Tout peut arriver » paru l'année dernière.
Mm-hmm.
Le sommet, quand est-ce que vous avez eu l'impression de l'atteindre, vous ?
Bonne question. Je pense que je m'en rendais pas compte, mais je pense que techniquement, on va dire, médiatiquement, on était au sommet avec ma sœur quand on a débarqué tous les deux avec Tout oublié. En termes de chiffres, je crois que c'est ce qui a été le plus haut. Et moi, personnellement, en ressenti, le sommet, c'est ces festivals à 40, 50 000 personnes qui chantent les musiques avec toi. C'est les zéniths remplis. Ça, c'est le sommet. Et j'ai pas spécialement envie d'aller plus haut que ça, d'ailleurs.
Mais quand on tombe, qu'est-ce que ça fait ?
Ça fait mal, hein ? Ça fait mal. Alors, je pense, hein, parce que personnellement, j'estime pas être tombé d'aussi haut. Mais je l'ai vu. Je l'ai aperçu dans d'autres carrières et ça se voit tous les jours. Quand on tombe, dans tous les cas, ça fait mal. C'est pour ça qu'il faut réussir à préparer ça et à, limite à se mettre en tête qu'en fait, quand on est au sommet, il n'y a qu'une chose qui va suivre, c'est une chute. Ou alors on va plus haut, mais on tombe d'encore plus haut. Après, on se fait encore plus mal. Je pense qu'il faut savoir accepter et accueillir cette chute ou cette descente, quoi, cette normalité.
Les minutes qu'on va passer ensemble s'écouleront vite tant que tu m'aimes. Comment on fait pour profiter ? Tout peut arriver. Tout peut arriver. Les rien n'est grave. J'ai rêvé de toi toute la nuit, mais je crois que j'ai pas fermé l'œil. Juste au cas où, si t'étais seul, t'aurais dû m'appeler.
Roméo Elvis, tout peut arriver, qui sera le titre de votre prochain album le 27 mai. Il paraît que c'est une expression de votre grand-mère, Mamie Pilou. Je crois qu'on connaît depuis le documentaire de votre sœur Angèle, dont on est fan, hein, dans Boomerang. Qu'est-ce
ouais.
que ça veut dire pour vous cette phrase, tout peut arriver ?
Je trouve qu'elle a deux sens intéressants. Elle est en même temps préventive, hein, attention, tout peut arriver, donc on est tout le temps sur les gardes, et en même temps c'est aussi un message d'espoir de ouf, c'est tout peut arriver encore et encore, gardons espoir, voyons plus loin, et je trouve que ça représente plein de choses, et en fait c'est quelque chose que j'utilise souvent dans mon quotidien, une formule TPA, et je la contrebalance avec RNG, rien n'est grave. Et donc on joue beaucoup avec ça. Ah toi t'es TPA, toi t'es RNG, ça c'est une attitude de TPA. Et puis un jour ma grand-mère au téléphone me dit ah oui, il faut absolument que je vienne voir l'appartement avant que je meure. Et ça c'est typique de ma grand-mère dans le dramatique tout de suite. Et du coup bah, je lui dis mais ça va, ça, t'es encore en forme. Et elle me dit ouais mais tout peut t'arriver, hein, t'as bien vu avec papy. Et ben ce jour-là j'ai signé, j'ai fait ça c'est sûr c'est le nom de l'album.
Qu'est-ce qui fait la profonde sagesse de Mamie Pilou?
Ah, déjà son expérience de la vie qui quoi qu'il en soit sera toujours tu vois il faut respecter les aînés pour ça même s'ils pensent pas comme toi même s'ils peuvent avoir l'air des fois à côté de la plaque ils ont cette expérience de la vie cette sagesse et ma mamie en plus il y a une espèce de il y a une insouciance une innocence d'une personne je sais pas comment expliquer, qui a grandi dans un quartier populaire, qui a jamais vraiment quitté Bruxelles, qui a été beaucoup en vacances en Espagne avec son mari, qui est dans ce petit train de vie normal de nouveau, je pense que c'est le thème de la journée.
Elle vous engueule parfois?
Elle m'a engueulé, ouais, quand j'étais plus petit, et maintenant, on est, ouais, elle attendait justement que je passe mon permis, maintenant elle est contente.
Celle qui nous engueule tout le temps dans cette émission, peut-être que vous la connaissez, Roméo Elvis, c'est la culture évidemment, et son actualité est d'une immaturité consternante. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, vendredi 29 avril?
Quand je ne perds pas mon temps au cinéma ou dans des cafés, j'essaye d'écrire. J'ai écrit plusieurs nouvelles, 4 ou 5 romans, qui sont tous restés inédits.
Paris, mode d'emploi, les éditions du Seuil font paraître aujourd'hui Lieu, un inédit de Georges Perec, long de 612 pages, lourd d'1,3 kg. L'ouvrage se présente comme une déambulation physique et mémorielle dans 24 lieux parisiens, entre constatation du réel et exaltation du souvenir. Amorcé en 1969, mais laissé inachevé par l'auteur de la disparition, le projet se déploie en 188 fragments, jamais publiés jusqu'à aujourd'hui. Originalité de l'affaire, en plus de sa version physique payante, l'intégralité du texte est proposée en ligne, totalement gratuitement, c'est assez grand.
Je l'ai cherché partout, j'ai fait le tour du monde. De Venise à Java, de Mania encore.
L'honneur d'un comédien aux Invalides cet après-midi, le ministère des Armées rendra un hommage funèbre à l'acteur et cinéaste Jacques Perrin, disparu le 21 avril dernier. Figure emblématique pour plusieurs générations de militaires et d'officiers, Jacques Perrin avait joué dans de nombreux films évoquant l'armée, comme la 317e section ou l'honneur d'un capitaine. Il était par ailleurs officier dans la réserve citoyenne de la Marine nationale, ainsi que peintre officiel de la Marine. Et juste avant sa disparition, il préparait un film sur la Légion étrangère.
La Russie, c'est un pays qui est centré sur la littérature.
L'écrivaine russe dissidente Ludmila Ulitskaya a reçu hier le prestigieux prix Formentor, une récompense littéraire internationale qui vient saluer l'ensemble de son œuvre, fervente opposante au régime de Poutine, régulièrement pressentie pour le Nobel et autrice d'une trentaine d'ouvrages. Ludmila Ulitskaya est l'une des plus grandes voix de la littérature russe post-soviétique. Pour l'occasion, on réécoute le bel entretien qu'elle nous accordait dans Boomerang la semaine dernière pour la sortie de son nouveau recueil « Le corps de l'âme ». Et enfin, point croisette, alors que l'on vient d'apprendre que les jurys d'Un certain regard, de la Caméra d'or et des courts-métrages cannois seraient respectivement présidés par l'Italienne Valeria Golino, l'Espagnol Rossi de Palma et l'Égyptien Yousri Nasrallah, une rumeur folle électrise le 7e art. On murmure que peut-être, qui sait, de nouveaux films pourraient être ajoutés aujourd'hui à la sélection officielle avec peut-être, qui sait, on vous l'aura dit, un documentaire inédit signé par la reine de toutes les reines, le diamant de tous les diamants, l'ancienne rappeuse Diams, en personne, on pose ça là. Le musicien Roméo Elvis, invité de Boomerang ce matin pour parler de rap quand même. Cette musique, quand et par quels artistes est-ce que vous l'avez découverte? Peut-être par Diams justement.
Ah, le rap?
Ouais.
Ouais, bonne question. Je crois que ça vient de très loin, ça vient de... Mais Diams entre autres, hein. Mais ça vient de J-Love and Special Sauce, un groupe de Philadelphie que mon père me faisait écouter quand j'étais tout petit. Je sais que mon père m'a dit que je suis né sur du Ronnie Drake, qui est une musique qui se rappe très bien aussi. Donc en vrai, ça vient de mon père. Et depuis tout petit, il m'a influencé avec la musique. Et puis je crois le premier auquel je me suis un peu identifié, entre guillemets, c'est MC Solaar.
Sauf que c'est devenu le rap, le genre le plus écouté en France, qui bat sans cesse des records d'écoute. Je pense à l'album Civilisation d'Orelsan, qui a été le plus vendu en 2021. Mais aussi au Marseillais Jul, qui vient de recevoir son 100e disque d'or. Cette extrême popularité du rap, qui ne faiblit pas. Comment vous l'expliquez, ça?
C'est fascinant et c'est une bonne question. Elle parle aux jeunes, ça c'est une des explications un peu classiques. Aujourd'hui, il y a différentes formes de rap. C'est devenu un style multicolore et je crois que c'est en ça qu'il est aussi toujours aussi fort aujourd'hui quoi.
C'est pas pour rien que je vous parle de Jul. Un morceau avec lui, c'est envisageable ou pas?
Ah, tout le monde sait que je suis un grand fan de Jul et que j'ai déjà nombreuses fois sollicité. Mais Jul est extrêmement demandé. C'est un peu comme si je demandais une interview à Macron quoi, je crois.
On parlait de records. Je me suis demandé battre des records. C'est une ambition pour vous, Romeo Elvis?
Franchement, ouais, ça fait toujours plaisir, en fait, quand tu regardes quelque chose et que ça s'améliore, que ça monte. Le problème, c'est, de nouveau, on revient à la boucle, c'est qu'il y a un moment où ça redescend, en fait. Il faut savoir l'accepter, le regarder et dire oui, bah, c'est normal.
Mais musicalement, repousser ses limites, viser toujours plus haut, ça passe par quoi, musicalement?
Musicalement, ça passe par beaucoup de travail, si on veut viser plus haut, et un changement radical, une prise de risque. Sinon, on n'y arrivera pas. Moi, personnellement, j'ai plus l'impression ces dernières années d'avoir demandé à mes équipes de garder la barre à la même hauteur et de limite aller un peu plus, de slow down un petit peu. Après les Zéniths, il y aura, je l'espère, d'ici peu un Bercy. Mais après le Bercy, je me vois pas essayer de faire un stade. Je me vois pas ensuite essayer de remplir quelque chose d'encore plus présomptueux. Donc j'ai demandé à ce qu'on fasse des plus petites salles là. Des cigales, des trucs comme ça.
Mais dans votre disque qui va sortir, qu'est-ce que vous avez repoussé comme limite justement? Jusqu'où est-ce que vous êtes allé?
Alors là, c'est intéressant. J'ai repoussé deux limites de facilité où je me suis cassé la tête à produire, à composer les morceaux.
Ça veut dire quoi ça, produire? Ce que vous ne faisiez pas forcément auparavant.
Ben c'est une grosse étape de l'album en réalité. Hein, la production d'un album, c'est le travail en studio, c'est décider un petit peu la couleur que ça va mettre, c'est composer les morceaux, mettre l'instrumental, mettre les textures dessus. En fait, c'est quelque chose que je ne faisais pas du tout avant, hein. Donc j'avais, comme la majorité des rappeurs, des producteurs qui travaillent pour moi et qui me faisaient des prods. Et moi je leur disais, là mets un peu plus de bing, bang, je savais pas dire les mots qu'il y avait dessus, des trucs comme ça. Et puis au fil du temps, j'ai commencé à essayer d'apprendre de plus en plus et j'ai surtout saisi l'occasion pendant le confinement. Pendant le confinement, j'ai installé le logiciel Ableton. Et par, on va dire, visioconférence, avec mes amis beatmakers, producteurs, j'ai appris à produire, à composer, à savoir ce que je voulais faire comme musique exactement, vu que j'ai des notions de composition avec le piano et la guitare. J'ai mis ça en place et j'ai ma musique aujourd'hui.
Ça veut dire que c'est un album qui va vous ressembler plus?
Ouais, franchement, je pense. Après, on sait hein, qu'à chaque album, on dit que c'est le meilleur, que c'est peut-être la maturité, que c'est peut-être cela. Mais sincèrement, je pense pas que j'aurai un album qui me ressemblera autant, parce que, ou alors je composerai encore à l'avenir. Mais de ce que j'ai fait, c'est ce avec le quoi je me sens le plus en phase, clairement.
C'est le vélo en force.
1-1-9-0, dernier étage.
Bédo en poche et frérot dans le Porsche.
Faut rajouter des zéros, rajouter des hectares.
Zéro assistance, zéro entorse.
Si les ailes brûlent, j'ai le siège éjectable. Bruxelles, 2-0.
J'ai du mal avec les gens qui se prennent au sérieux.
Beaucoup trop sérieux.
20-22, le rappeur met des cagoulés, des masques. J'ai quand même pu lire dans ses yeux. Moins de neurones que de follow. Ça veut donner l'impression que c'est des no love. Mais je l'ai croisé dans la rue avec sa copine. On aurait dit un canard ou un bolos. Mec, ce monde est fait.
2-2, c'est un titre que vous avez fait paraître mercredi en duo avec le rappeur Primero, issu d'un trio de rappeurs belges qui s'appelle L'Or du Commun et qui vous suit hein, pratiquement depuis vos débuts. Pourquoi lui, Romeo Elvis?
Parce que ce sera toujours le premier à qui je dirais oui, 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 parce que c'est mon meilleur ami dans la musique, avec qui j'ai fait le plus de morceaux, qui est issu du groupe de L'Or du Commun, à qui je dois tout. Et parce qu'il a, il prépare il sort un EP, je crois que c'est aujourd'hui en plus, on est le 29, non? Aujourd'hui, il sort un EP, et je voulais absolument en être, quoi.
À quoi ça tient une bonne collaboration, justement, vous qui vous entourez tout le temps?
Bonne question. Ça tient à ce que, en fait, on se mette pas au boulot tout de suite. En fait, c'est un travail, quoi. C'est comme quand, je sais pas, t'as un rendez-vous amoureux, et on va pas directement se retrouver dans l'appart. On va aller bouffer, on va aller un peu se chauffer, on va savoir ce pourquoi est-ce qu'on est là. Ça passe par là. Limite, en fait, même prendre un rendez-vous avant la session de studio.
On prend son temps, quoi.
Ouais, prendre le temps et et créer une vraie complicité.
C'est important le temps parce que, en l'occurrence, c'est le cas avec Primero, vous le disiez, c'est quelqu'un qui vous suit depuis des années. La fidélité dans ce métier, quelle qualité est-ce que c'est? Quelle importance est-ce que ça a pour vous?
Pour moi, c'est une des plus importantes des qualités. La fidélité, la complicité, la confiance sont de mise et on se doit d'être bien entouré.
On vous a beaucoup lâché?
On m'a pas beaucoup lâché, franchement, parce que j'ai tissé des belles relations avec des gens qui me sont encore aujourd'hui, j'irais pas jusqu'à dire redevables, mais qui me la rendent naturellement, quoi.
Qui sont ceux qui vous ont jamais tourné le dos, jamais fermé leur porte, même au pire moment?
Mon équipe, toute ma famille, Laure du Commun, mon ingénieur du son avec qui je travaille depuis des années, Max Dour, tous les gens avec qui je travaille, mes attachés de presse, et même, je vais vous dire, et même moi, quand j'ai évolué dans ma carrière et que j'ai dû passer des étapes et des caps, par exemple, quand je suis passé d'une plus petite agence de booking, donc ceux qui m'organisent les concerts, quand j'ai dû signer chez Augury, qui est une grosse maison de booking, j'ai demandé à ce qu'on crée une coalition entre mon ancienne boîte de booking et la nouvelle, parce que je voulais pas quitter mon équipe. Je voulais monter, mais je voulais pas monter tout seul, donc j'ai fait monter toute mon équipe, donc c'est Furax qui s'est lié à Augury, c'est une coalition qui n'existe nulle part ailleurs, et j'ai les gars avec qui j'étais depuis le début sur les Zéniths et on a grandi ensemble, c'est super important je pense.
On écoute ce nouveau titre ou pas?
Avec plaisir.
On écoute Quand je marche, donc comme Ben Mazuet, votre nouveau morceau qui vient juste de sortir. Yes. Vous êtes sur France Inter avec Roméo Elvis, vous écoutez Boomerang, on est vendredi.
Quand je marche comme Ben Mazuet, je pense à des choses et le temps paraît se prolonger. Je fais une maquette, je l'exporte, je l'écoute et je marche, satisfaction de jours de congé. Mais quand je rentre chez moi et que je chante un nouveau refrain que j'avais dans la tête, je me dis que j'ai de la chance d'être en vie et de faire ce métier. Alors c'est le moteur, j'arrive pas à étudier le code. Je vais le perdre le jour où je l'aurai à cause d'un test de drogue.
C'est vrai, en plus, c'est sûr.
Ah. Toujours à la recherche des vieux morceaux de l'or du commun. Sur les plateformes, évidemment. La balade m'amène au pied de la base de l'atomium. Hey. Ah. Quand je marche comme Ben Mazuet, je pense à des choses et le temps paraît se prolonger. Je fais une maquette, je l'exporte, je l'écoute et je marche, satisfaction de jours de congé. Mais quand je rentre chez moi et que je chante un nouveau refrain que j'avais dans la tête, je me dis que j'ai de la chance d'être en vie et de faire ce métier. Alors, faisons la fête. Le rap ne m'aime autant que je l'aime. Et si je vais une fois par an à Los Angeles, c'est une question de législation. Puis en Belgique, y'a pas de soleil. J'ai des réflexions immatures. Je prends la place et je fais du bruit comme 10 voitures. Si je cours pas assez, j'y vois plus rien. Ça devient flou, comme en miniature. Quand je marche comme Ben Mazuet, je pense à des choses et le temps paraît se prolonger. Je fais une maquette, je l'exporte, je l'écoute et je marche, satisfaction de jours de congé. Et quand je rentre chez moi et que je chante un nouveau refrain que j'avais dans la tête, je me dis que j'ai de la chance d'être en vie et de faire ce métier. Alors, faisons la fête.
Là, il est assis, mais il a l'air d'un bon marcheur. Hein. Il a la jambe solide, le quadriceps tendu, la chaussure tout terrain. On l'imagine promeneur solitaire en train de siffloter, les mains dans les poches, à l'ombre d'une allée de vieux chênes. Il est nature, grand air, il est sensation pure, tout en chêne et chemise large ce matin. Roméo Elvis, invité de Boomerang, pour ce nouveau titre, Quand je marche, comme Ben Mazuet, entre parenthèses, j'aimerais que vous me parliez un petit peu du son que vous avez cherché à créer, justement, de quels arrangements, de quels rythmes, quels instruments est-ce qu'il est fait, ce morceau?
Ce morceau en particulier, il a été composé pendant le confinement. J'avais envie de faire un truc, on va dire, la thématique c'était groove. Et en vrai, quand j'ai commencé à le composer, j'ai eu l'impression que ça sonnait comme quelque chose. Et ça m'a pas déplu, parce que ça sonnait un peu, avec toute modestie, à la Gorillaz. Et du coup, quand j'étais en studio avec PH Trigano, qui m'a aidé à refaire le morceau plus proprement, et avec Lennart Vink, je leur ai dit... il faut que ça sonne à la Gorillaz.
Et par quoi ça commence? Par des mots ou alors par des petites notes au piano?
Ben en fait, avant, ça commençait par des bruits parce que je connaissais pas la technique. Donc je savais pas dire il me faut plus de reverb dans la voix, il me faut un delay, il me faut avant, je savais juste dire un cut quoi, tu vois, ça s'arrêtait là, un cut et remets l'instru s'il te plaît. Monte le casque. Et après, c'était des ding dang et des huit et des ouh. Maintenant, j'ai mis les mots dessus, c'est ça que ça m'a appris aussi, c'est arriver à mieux communiquer avec les gens qui je travaille. Et ensuite, ouais, c'est ça se parle, ça se... C'est ça qui est marrant avec la musique, c'est que soit ça marche, soit ça marche pas, l'alchimie, mais qu'en général, il faut pas grand chose, il suffit de se regarder, d'expliquer le truc. Ouais, tu vois, j'aimerais bien que ça fasse un peu, ouais, je vois ce que tu veux dire, ouais, un peu nanani nanana.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est que cette chanson, elle parle de création, justement, Romeo ouais. Elvis. Parce que vous écrivez en marchant, vous composez, vous créez en marchant.
Oui, oui, je marche beaucoup seul, j'adore ça. Et du coup, bah, il m'arrive encore souvent de marcher seul ou d'être à vélo seul et de réfléchir à de la musique. Et c'est un bon exercice que de sortir de chez soi quand on a la tête pleine pour se vider les idées, pour se réinspirer, pour reprendre une bouffée d'oxygène. Et c'est ça qui m'a parlé dans le morceau de Ben Mazoué. C'est pour ça que je l'ai appelé « Quand je marche comme Ben Mazoué ». Il explique aussi que un moment, il s'arrête, il va marcher, il va se changer les idées.
Oui, parce que ça donne un rythme aussi de marcher.
Ouais, c'est ça. Et à un moment, juste, je me suis rendu compte, mais en fait, comme je dis dans le morceau, mais quelle chance, quoi. Quelle chance de pouvoir avoir ce luxe de me balader dans ma ville, de réfléchir et de dire ça c'est bien, je vais en faire une musique, de rentrer chez moi, de poser le truc et d'essayer d'en faire quelque chose. Quelle chance quoi.
C'est vrai que vous parlez de satisfaction dans ce morceau, satisfaction dans le travail, dans la création. Pour autant, quand vous créez un morceau, j'imagine qu'il y a beaucoup de moments de doute, beaucoup de moments où vous cherchez, vous n'êtes pas satisfait, Romeo Elvis, non?
Ouais, mais ça c'est plutôt le moment entre les deux. On a créé le morceau, on est content, on le pose, on le mixe. Et après, il va sortir. Mais entre-temps, il y a un mois. Et pendant ce mois-là, tu te dis, attends, j'aurais pas dû faire ça. Et ce moment-là, il est désagréable, mais tu sais, quand il arrive, c'est que t'as un bon morceau.
Vous avez un exemple, par exemple, dans votre carrière, où musicalement, vous avez vraiment douté?
Ah ouais, complètement. Sincèrement, quand j'ai sorti l'album Chocolat, je suis rentré dans une sphère que je ne calculais pas. J'étais pas du tout conscient que j'étais devenu à ce point-là mainstream, à ce point-là exposé. Et j'ai joué le jeu des radios, je suis allé à fond dedans, j'ai adoré ça. Mais c'est vrai que du coup, j'ai douté énormément. Parce que c'est quelque chose que je faisais pas avant. Je suis passé de vraiment de rien au tout, en fait.
Ça veut dire que quand vous sortiez d'une interview, vous étiez paniqué, mal
Ouais, je vérifiais tout après. Je me disais, ça va, j'ai pas dit de conneries. Puis surtout, ouais, les retours, tu vois, les commentaires, aller regarder la vie des gens qui finalement va pas te mettre d'accord, va jamais te reposer l'esprit. Je doutais beaucoup de ça avant, de ce qu'on pouvait me dire. Et maintenant, je suis clair avec ça. Je suis tellement content de faire de la musique, d'avoir réussi à me rendre compte de toute la chance que j'ai avant de me soucier de est-ce que les gens vont aimer, est-ce que ça va plaire.
Et ça m'intéresse, ça, le fait qu'un morceau, en fait, à bien vous entendre, il n'est jamais fini. C'est-à-dire que vous savez
pas. Ouais, de ouf, exactement. Un morceau n'est jamais fini, une œuvre n'est jamais finie. Il faut que l'artiste se décide à mettre un point d'arrêt parce que sinon, il va toujours vouloir continuer. Parce que le doute et création.
Cela dit, la chance que vous avez, c'est que quand vous les jouez en concert, vous pouvez les modifier, non?
Ouais, ça c'est génial.
Vous le faites beaucoup?
Beaucoup, beaucoup. Chaque fois que j'écoute les morceaux après, je me dis, mais c'est pas du tout comme ça que ça sonne en concert, c'est fou ça. Ouais, beaucoup, beaucoup.
Ça veut dire que vous allez réadapter tous vos textes, en fait?
Non, les textes, je les adapte pas trop, ou alors tu changes une petite phrase parce que t'as envie de montrer que t'es là, et tu dis, bah ce soir, je suis avec le cabaret vert, et puis hop, les gens se reconnaissent. Et c'est cool. Non, c'est plus adapté. On va la faire jazzy, celle-là. Celle-là, on va la faire durer 8 minutes. On va mettre un petit solo, là, sympa, de 8 minutes dans la gueule des gens, et ils vont se le prendre. Et puis celle-là, ben on va la jouer avec l'instrumental coupé pendant tout le texte au début, et tu vas la rapper en a cappella.
Et ça, ce sont des choses que vous avez déjà prévues pour vos concerts à venir?
Non, ça se prévoit sur le tas. On les répète comme ça, et après, avec le temps, tu te dis, tu vois celle-là, t'as vu, elle est un peu dégueulasse, on est d'accord.
Romeo, qu'est-ce qui se passe quand vous entrez sur scène? Dans quel état vous êtes?
J'ai l'impression d'être vraiment là où je dois être, absolument. J'ai l'impression d'avoir vraiment un contrôle total de la situation, d'avoir une bonne tenue de route, de savoir faire mon changement de vitesse comme il faut. Et vraiment, je suis en totale maîtrise et je suis en état de plénitude et je vois tous ces gens qui sont là, qui attendent d'être divertis et je me sens à ma place.
C'est que c'est une scène là ?
Un petit peu, ouais, ouais, je le sens comme ça. Là.
Alors vous allez rentrer en scène, parce que pour terminer cette émission, vous nous avez fait une surprise.
Ouais, 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 un texte inédit, ouais, c'est vrai.
Est-ce que vous savez lancer le boomerang ?
Je lance le boomerang, c'est parti. Ok, ok. Et... 1. Tout peut arriver. Et 1. À chaque fois que je finis un bouquin, je crois que je suis un génie. À chaque fois, je crois que je suis en moto, mais je suis en vélib. À chaque fois que je suis dans un train, je mets le sac à côté de moi. Et je fais genre, j'ai pas entendu qu'on me demande si la place est libre. À chaque fois que je veux une médaille. À chaque fois que je donne la force, je me vois comme un Jedi. À chaque fois que je veux bédave, ben j'arrive à bédave, toujours, c'est normal. Mais je la trouve trop chère, pas de tarif acceptable. 1-1-2-0-2-2, je me mets au 2-2. Dans le secteur, je suis un godfather, mais j'ai rencontré aucun neveu. Je veux la Galiane 9E dans le sac Ziploc. Bizarre, les synapses se disloquent comme subliminal. C'est des... Je suis fort, je suis en finale. Ah, l'adversaire, c'est une version de moi, mais en minable. Je suis à deux doigts de laisser gagner la coupe. À deux doigts de faire une Zidane. Non, pas maintenant. Pas après tout ce que t'as fait. Oh. On est tous le bully d'un tel, la victime d'un autre. Le choix est vite fait, c'est soit tu t'intègres, soit tu t'imposes. Je sais pas à quoi va ressembler mon cercueil, mais ça m'intéresse pas. Tant que j'ai mis bien la famille au complet et dépensé mon blé. 1. À chaque fois que je finis un texte, un puriste meurt. À chaque fois que j'ouvre mon tel, un dealer prie. À chaque fois que je regarde mes sables de marque, je me dis franchement, j'aurais pas l'air plus cool si je dis leur prix. À chaque fois que je suis dans un Uber, je me sens important. Pourtant, je fais encore de l'auto-école et j'aurai bientôt les 30 ans. À chaque fois que je finis un U, j'ai envie d'un autre. À chaque fois que j'ouvre mon esprit, c'est comme un grand angle. Le diable est tentant. Déguisé en oiseau, en fantôme de moins de 100 ans. La meute élève la sentence. Je sais pas si je crois en toi, mais mon Dieu, est-ce que tu m'entends? Tout peut arriver mais rien n'est grave, c'est ma façon de penser. Et si t'as un problème avec moi, parlons français. Je sais pas à quoi va ressembler mon cercueil, ça m'intéresse pas. Depuis que j'ai vécu tous ces cercueils, je veux changer d'espace. Oh là là, oh là là, la vie est bien faite, je regarde les insectes. Posé dans mon jardin, 17h27.
Ah, Roméo Elvis, dans Boomerang. Merci Roméo d'être venu faire un tour dans cette émission. Je rappelle que Quand je marche, votre nouveau titre vient tout juste de paraître, qu'on attend votre prochain album Tout peut arriver pour le 27 mai. Yes. Et on vous retrouve très vite en concert dans toute la France à Paris, du 20 au 23 mai, puis à Nantes, Bruxelles, Nîmes, avant une tournée des Zéniths en octobre et à Bercy. Vous en parliez à Core Hotel Arena le 25 novembre, si tout va bien. Merci à vous et merci à Rémi Sistiaga, à la technique ce matin, ainsi qu'à toute l'équipe de Boomerang, Lola Costantini, Perrine Malinge, Léonard Billot, Pierre Desmets, Victor Candelaft et Jean-Baptiste Dibert. Tout de suite, c'est l'heure de la médiatrice des antennes, notre cher Emmanuel Davier. Salut Emmanuel.
Salut Augustin et à lundi.